Merci Jean Lebrun et bonjour à tous.
Hey, you know what?
Nous entamons ce lundi dans les nouveaux chemins de la connaissance une série d'émissions sur l'utopie, autrement appelée le meilleur des mondes impossibles. Demain mardi, le sociologue Patrick Tacussel viendra nous parler de Charles Fourier, le penseur des phalanstères et de sa postérité. Mercredi, c'est Raymond Trousson, professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles et coordonnateur d'une histoire transnationale de l'utopie littéraire et de l'utopisme qui reviendra pour vous sur l'utopie en littérature. Jeudi, Frédéric Rouvillois abordera la question difficile mais passionnante et littéraire en diable de la contre-utopie. Enfin, vendredi, nous finirons la semaine en faisant peut-être la préhistoire de l'utopie en compagnie de Monique Dixot, philosophe spécialiste de Platon, qui viendra vous parler de la cité idéale dont le Socrate, celui de Platon, dresse le portrait dans la République. Mais aujourd'hui, tout de suite, ce soir et maintenant, c'est le philosophe Miguel Abinsour, auteur notamment de « L'utopie » de Thomas More à Walter Benjamin, paru chez Sens et Tonka, et du « Procès des maîtres rêveurs » paru chez Sulliver en 2000, qui est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance, et avec qui on va revenir notamment sur « L'utopie » de Thomas More. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture. Alors Miguel Abinsour, on va revenir avec vous sur l'utopie de Thomas More, cette bagatelle littéraire échappée presque à son insu de sa plume, c'est lui qui le dit. Donc ce petit ouvrage sur la meilleure des républiques, où tout un genre littéraire trouvera ensuite sa source. Mais avant cela, Miguel Abinsour, puisque c'est la première émission de la semaine, je voudrais avoir votre sentiment sur le préjugé suivant. Voilà, est-ce que vous souscrivez à l'idée que l'utopie n'a de sens que dans la mesure où elle n'advient jamais ? Qu'en somme, à la différence par exemple du dieu de Descartes, dont la perfection implique l'existence, ce serait être imparfait que de ne pas exister pour Dieu, selon Descartes, donc à la différence du dieu de Descartes, l'utopie serait, elle, un néant si parfait qu'en somme il aurait tout à perdre à se réaliser, Miguel Abinsour.
C'est-à-dire, je crois qu'il faut distinguer plusieurs problèmes, là. Le problème de la réalisation d'une part, et le problème de l'existence de l'autre, c'est-à-dire que...
Quelle différence faites-vous entre l'existence et la réalisation ?
L'utopie, par exemple, en tant que texte littéraire, existe. L'utopie en tant que pratique utopique existe. Je pense à toutes les pratiques utopiques qui ont commencé avec la première révolution anglaise, qui se sont continuées au XIXe siècle, en France notamment, mais aussi aux États-Unis. Alors, la particularité, ce que l'on peut remarquer, c'est que ces expériences sont extrêmement brèves, enfin, ne durent que quelques années, quelquefois quelques mois, mais ça n'est pas une... Je ne pense pas qu'on puisse simplement mettre l'utopie du côté de la non-existence et du néant.
Mais comme organisation politique, Miguel Abinsour, est-ce qu'un utopiste conséquent souhaite l'avènement du système qu'il décrit ?
Non, ce que je crois, c'est qu'il faut distinguer entre plusieurs types d'utopistes. Il y a par exemple ceux comme Thomas More, où le jeu de l'écriture est extrêmement important. Et comme vous le savez, la dernière phrase du texte, c'est « je le souhaite plutôt que je ne l'espère ». Et d'ailleurs, on a pu considérer que cette utopie qui porte sur l'égale répartition des ressources, en fait, est une critique du communisme. Donc, déjà, tout de suite, on est introduit dans la complexité du texte. Et puis, il y a d'autres utopies plus modernes, plus proches de nous. Par exemple, celle de Cabé, qui a été...
L'Icarie de Cabé.
Oui, le voyage en Icarie de Cabé, qui a été, au fond, une espèce de bricolage avec un peu de Platon, un peu de Thomas More.
Un peu de nazisme aussi, Miguel Abinsour. C'est lui qui voulait brûler les livres dangereux, voire inutiles.
Oui, certainement. Mais je pense que là, enfin, je suis tout à fait contre ce type de pratique. Vous en doutez bien. D'ailleurs, je l'écris encore récemment à propos de l'utopie des livres. Mais... Je pense qu'il est très dangereux de mélanger l'utopie au nazisme. Je pense que l'utopie a à voir avec l'émancipation. Alors, elle peut être en prise à une dialectique de l'émancipation, c'est-à-dire que son projet se retourne en son contraire, ça je vous l'accorde, mais ça n'est pas au nom de cela que l'on puisse tout de suite la mettre du côté du nazisme.
Non, je pensais juste à l'exemple d'Ancabet, au moment où il parlait de oui. brûler les livres dangereux, voire oui. inutiles. C'est, oui. c'est la formulation enfin, de l'autodafé.
Donc, je serais très, très réticent pour cela, même si je pense effectivement que ce projet de Cabé est une forme de dialectique de l'émancipation. Mais ce n'est pas cela que je voulais dire. Justement, ce qu'il y a d'intéressant dans le voyage en Icarie, c'est que le voyage en Icarie s'était conçu comme ce qui pouvait créer une nouvelle forme de mouvement social. Et d'ailleurs, il y a une lettre tout à fait étonnante de Marx, dont on pense comme ça tout simplement qu'il est contre l'utopie, qui supplie le citoyen Cabé de ne pas partir aux États-Unis, vu l'importance qu'il a, le rassemblement qu'il a opéré autour de son nom et autour de ses idées, hein, puisqu'il devait y avoir environ... à peu près 200 000 icaristes en France à l'époque du voyage en Icarie. Donc là, il est évident que quelqu'un comme Cabé, quelqu'un qui est certainement, même s'il accepte une période de transition, c'est quelqu'un qui a cette idée ou ce fantasme, si vous voulez, que l'utopie peut se réaliser de part en part. Dans le cas de Thomas More, c'est tout à fait différent.
On va en parler de Thomas More. Restons un instant sur Cabé avec vous, hein, Miguel Abinsourd. Nous faisons en faveur de l'humanité ce que ses oppresseurs faisaient contre elle. Nous avons fait du feu pour brûler les méchants livres, tandis que des brigands ou des fanatiques allumaient les bûchers pour brûler d'innocents hérétiques. L'homme qui dit cela invite à penser, si vous voulez, que peut-être l'humain n'étant pas à la hauteur de ceux qui lui veulent du bien, ceux qui lui veulent autant de bien sont eux-mêmes aussi dangereux que les oppresseurs qu'ils prétendent combattre. Il dit « Nous faisons en faveur de l'humanité ce que ces oppresseurs faisaient contre elle ». On pourrait lui rétorquer que c'est très exactement le discours de l'oppresseur, non ?
Oui. Non, mais je ne défendrai pas Cabé et ces pratiques-là. Hein. Je pense que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une espèce de renversement de l'émancipation en son contraire. Alors ça renverrait à quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire la question du livre au moment de... Enfin, dans la pratique révolutionnaire, hein. C'est-à-dire qu'au moment de la Révolution française, vous avez eu deux camps. Vous avez ceux qui considéraient que le livre était sauveur du côté des Lumières, et puis ceux qui ont considéré que ça portait atteinte à l'égalité. Donc, la question du livre, disons, dans le mouvement émancipateur est une question complexe. Hein. Et je pense que ce Cabé s'est heurté à cela, et comme ce n'était pas un esprit très subtil... je pense qu'effectivement, son hostilité à certains livres a pu le mener à penser cela.
Revenons à Thomas More, Miguel Abinsourd. L'utopie de Thomas More. Alors, on va parler du livre 1 avec vous, mais également, si vous voulez bien, du livre 2, dont je voudrais noter quelques... Alors, il faut préciser que le livre 2 est consacré à la description de l'utopie en question. Oui. Hein. Alors, il faut rappeler que, ce qui est très frappant... utopie signifie nulle part, hein. C'est un lieu qui n'est en aucun lieu, une présence absente comme on dit, et que par ailleurs la capitale de l'île, Amoroth, est littéralement la ville fantôme, Anidris, le fleuve de la capitale, c'est littéralement le fleuve sans eau, le chef c'est Adémus, c'est-à-dire le chef sans peuple, ses habitants ce sont les Alaopolites, des citoyens sans cité et leurs voisins, et leurs voisins, pardonnez-moi, les Acoréens sont littéralement des habitants sans pays. Que pensez-vous de cette récurrence du privatif pour désigner les différents éléments de l'utopie de Thomas More ?
Bien, je vais vous répondre à cela tout de suite, mais au préalable, je voudrais dire, parce que vous n'avez retenu qu'un seul sens du mot utopie, c'est-à-dire le sens de nulle part. Mais le terme inventé et par Thomas More est un terme ambigu. Parce que, comme vous le savez, on peut très bien entendre le lieu de nulle part, mais on
comme
peut
le
aussi
bon
entendre
lieu.
Le lieu d'aucun temps, mais aussi le lieu où tout est bien.
Hein. Utopie, à ce moment-là.
Voilà. Mais et d'ailleurs, il y a dans les, ce qu'on appelle les paratextes, qui encadrent le texte, il y a un sonnet qui, justement, parle de ce lieu où tout est bien. Donc, je crois qu'il est tout à fait essentiel de maintenir cette ambiguïté. Parce que si on ne maintient pas cette ambiguïté, on risque de mésinterpréter le texte de Thomas More et son entreprise. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a quantité de mots négatifs, de privations, mais justement, je crois que ça, alors, si vous voulez, c'est un peu l'aboutissement hein, du travail de More. Il faudrait peut-être démarrer sur la question de l'écriture, mais peu importe. L'aboutissement, c'est que je crois que More, outre l'invention d'un dispositif rhétorique nouveau, a créé ce qu'on pourrait appeler l'utopie négative. C'est-à-dire que, d'une part, il épouse dans le mouvement de son écriture, dans le mouvement de développement, de déploiement de sa pensée, il épouse la destruction, l'impulsion de destruction de la satire. Et quant à la partie de construction, il se garde, il réduit sans arrêt la positivité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qui est intéressant chez More, je crois que ce qu'il faut entendre à travers tous ces négatifs, tous ces privatifs, ce qu'il faut entendre, c'est que l'utopie ne doit pas s'arrêter ou s'enfermer, se clôturer dans une solution ou dans des thèses qui ont valeur de solution. Je crois que ce qui, justement, si on s'attache à son écriture, ce que More a inventé en même temps, grâce à cette utopie négative, c'est de faire séjourner l'utopie dans ce que j'appellerais le problématique ou la problématicité. Alors bien évidemment, les interprètes ne fonctionnent pas comme ça la plupart du temps. Les interprètes se précipitent sur le livre 2 et, peu soucieux de remarquer ce que vous avez remarqué, ils y lisent une préfiguration de l'idéologie dont ils sont ou de la doctrine dont ils sont eux-mêmes porteurs. C'est-à-dire, soit ils sont socialistes ou communistes. Par exemple, Thomas More a son nom sur une stèle de la Place Rouge. Enfin, je ne sais pas s'il l'a toujours. Mais enfin, en tout cas, il avait son nom sur une stèle de la Place Rouge. Et puis, il a été d'autre part canonisé en 1935.
Merveilleuse postérité d'un homme qui est à la fois canonisé et qui a une stèle sur la Place Rouge.
Voilà, oui.
Étonnante ambivalence quand même d'une œuvre, non, Miguel Abinsourd?
Oui, non, mais justement, c'est très intéressant parce que c'est toute la perspective qu'il ouvrait et où, au fond, chacun pouvait trouver ou pouvait croire trouver de son bien.
On va travailler sur le texte avec vous, Miguel Abinsourd, mais je voudrais qu'on entende, sans vous interrompre, justement, on va reprendre là-dessus, je voudrais qu'on entende justement un extrait de ce texte pour que les auditeurs déjà découvrent à quel point c'est bien écrit et ce dont il est question dans ce texte, cette île d'utopie qui, il faut le rappeler, est une île artificielle. C'était une presqu'île et les hommes en ont fait une île.
L'île a 54 villes, grandes et belles, identiques par la langue, les mœurs, les institutions et les lois. Elles sont toutes bâties sur le même plan et ont le même aspect, dans la mesure où le site le permet. La distance de l'une à l'autre est au minimum de 24 milles. Elle n'est jamais si grande qu'elle ne puisse être franchie en une journée de marche. Chaque ville envoie chaque année en amour haute trois vieillards ayant l'expérience des affaires afin de mettre les intérêts de l'île en délibération. Située comme à l'ombilic de l'île, d'un accès facile pour tous les délégués, cette ville est considérée comme une capitale. Les champs sont si bien répartis entre les cités que chacune a au moins 12 milles de terrain à cultiver tout autour d'elle, et parfois davantage si la distance est plus grande entre elle et la voisine. Aucune ne cherche à étendre son territoire, car les habitants s'en considèrent comme les fermiers plutôt que comme les propriétaires. Celui qui connaît une de leurs villes les connaît toutes, tant elles sont semblables, pour autant que le terrain ne les distingue pas. Je n'en décrirai donc qu'une, et peu importe laquelle. Pourquoi ne pas choisir Amorote ? Aucune ne le mérite mieux, puisque les autres lui ont accordé d'être le siège du Sénat. Il n'en est aucune du reste que je connaisse mieux, car j'y ai passé 5 années entières.
Tout est identique dans l'île d'Utopie. Les 54 villes, toutes spacieuses, magnifiques. Les lois y sont les mêmes, les mœurs et les institutions y sont les mêmes. Tout est semblable, le traitement est identique. Ça n'a rien de désirable, ça, Miguel Abinsour.
Non, mais enfin, je veux dire, nous avons bien des choses identiques dans notre société, par exemple.
Mais ça n'est pas ce que notre société a de plus désirable, justement.
Je veux dire, donc, c'est... c'est pas non plus le... Et de toutes les manières, il y a des réserves, dans la mesure où le site le permet, le terrain, donc il respecte d'une certaine manière la nature. Il ne s'agit pas de contrarier la nature. Mais de toutes les manières, le problème n'est pas là. Vous ne m'entraînerez pas sur l'utopie qui doit mener au totalitarisme par justement surcroît d'identité, etc. D'abord, qui raconte cela ? C'est quelqu'un qui s'appelle Raphaël Itlaudet. Raphaël, comme vous savez, c'est celui qui guérit de la cécité. Et quant à Itlaudet, c'est le conteur de sornettes en grec. Donc nous avons un marin philosophe qui, par l'art de Thomas More, va guérir de la cécité en racontant des sornettes. Donc, comme disait Fourier, il faut savoir lire les utopies, c'est-à-dire comme Grano Salis, en sachant faire la part au rire. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de se précipiter sur l'identité des bâtiments et puis ça y est, de conclure aussitôt l'amorce du totalitarisme.
C'est vous qui concluez à ça.
Ça
n'était pas implicite dans ma question.
Oui, mais quand on commence à parler de l'identité, la porte d'après, c'est cette question-là qui arrive.
Non, mais il y a d'autres passages. Ouais. On aurait pu citer d'autres passages. Le moment où il dit, par exemple, se réunir hors le Sénat et les assemblées du peuple pour délibérer sur les affaires publiques est un crime puni de mort. Ou bien ce récit qu'il fait, par exemple, des jeux qui sont interdits, ou bien des jeux qui sont obligatoires. On pourrait aussi revenir sur la condition des femmes ou sur l'idée tout simplement que dans le livre 2 d'Utopia, les institutions sont censées corriger les vices humains. Là, on a des éléments de totalitarisme plus encore que l'identité des villes, Miguel Abinsour.
Moi, je ne crois pas du tout. De toutes les manières, il est intéressant de voir que vous allez, comme les interprètes en général, vers le livre 2. Donc, c'est comme si...
Revenons sur le livre 1, si vous voulez.
C'est comme si vous vous priviez des clés pour lire le livre 2. Alors, je crois justement, ce que moi j'ai essayé de montrer... c'est que nous sommes apparemment coincés entre deux types d'interprétations. On aurait soit les interprétations réalistes, c'est-à-dire qui essaieraient de donner une doctrine à partir des effets de réel que produit le récit de Raphaël Itlaudet, et au contraire, nous aurions en face, contre ce type de lecture, donc qui voit dans l'utopie un modèle, un plan, et donc alors à partir de ce moment-là, effectivement, on peut critiquer tout ce que vous avez énoncé. Et puis il y a d'autres types de lectures, allégoriques ou symboliques, qui au contraire se refusent à faire de l'utopie un modèle ou un plan, mais ils voient, s'intéressent à la question de l'écriture.
Et c'est la valeur ajoutée du livre 1.
Oui, ils voient dans l'écriture ce qui permettrait de préparer une conversion de l'âme, c'est-à-dire toute une préparation spirituelle. Donc d'un côté, nous aurions la question politique avec une lecture réaliste, et de l'autre côté, nous aurions l'ignorance de la politique, de toute question politique, avec la valorisation de l'écriture. Alors moi, ce que je propose, c'est de refuser cette alternative et de poser ensemble la question de l'écriture et la question de la politique. C'est-à-dire, je pense effectivement comme par exemple fait André Prévost, l'éditeur français de l'Utopie, qu'il ne s'agit pas d'un modèle ou d'un plan. Alors à partir du moment où il ne s'agit pas d'un modèle ou d'un plan, bon, eh bien, les quantités de dispositions que vous avez énoncées sont à prendre effectivement avec précaution. Hein. Mais que, et contrairement à André Prévost, je pense qu'effectivement, cette écriture porte sur la question politique, c'est-à-dire qu'il y a une autre manière d'envisager la question politique et qui est tout à fait parallèle à ce que Thomas More a fait un an avant d'écrire l'Utopie, c'est-à-dire la réhabilitation de la rhétorique contre la philosophie scolastique. Hein ? Je crois que cela, c'est tout à fait important parce qu'il y a là la découverte de la part de Thomas More de ce que Léo Strauss a appelé dans notre siècle, enfin, ou le siècle précédent, un art d'écrire oublié. Et si vous permettez, je pourrais vous lire un bref passage de cette lettre.
Allez-y, c'est Miguel Amansour, tourne les pages, vous tournez les pages de votre propre livre, où se trouve la citation, allez-y.
Voilà, alors c'est dans la lettre donc à Dorp, il arrive invoquant le témoignage des pères de l'Église, More écrit « D'après eux, c'est Dieu, par un calcul de sa très haute sagesse, qui en a caché le sens des Écritures saintes, dans les replis profonds du texte, afin de piquer notre curiosité. Il a enfoui les trésors afin de nous provoquer à creuser et à fouiller. » Autrement, nos esprits paresseux, les voyant ainsi exposés à ciel ouvert et comme à fleur de sol, perdraient toute crainte de les voir leur échapper et s'enliseraient dans la torpeur.
Donc, si je vous suis bien, le texte de Thomas More, Utopie, et c'est la leçon donc du livre 1 qui a été rajouté ensuite,
oui. Hein,
dont la rédaction est postérieure au livre 2, même oui. Si il est antérieur dans l'édition, mais postérieur en termes de rédaction. La valeur ajoutée du livre 1, c'est finalement de désamorcer ce qui pourrait être polémique ou sujet à caution dans le livre 2 pour faire de cet ouvrage d'ensemble quoi, un objet heuristique, une recherche et certainement pas une norme.
Absolument, c'est un objet heuristique parce que ce qui est très important, c'est que la valeur ajoutée, pour parler comme vous venez de le faire, la valeur ajoutée, c'est que le livre 1, qui a été donc écrit après, donne la théorie de l'écriture et la théorie de la lecture, donc, du livre 2. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait important de comprendre, c'est que le livre 1, c'est un dialogue de conseil. Les protagonistes sont les suivants. Nous sommes dans un jardin, le jardin de la maison de Thomas More, où il y a Pierre Gilles, qui a le culte de l'amitié, et Raphaël Itlaudet, ce voyageur philosophe qui revient des contrées lointaines et qui revient de l'île d'Utopie. Et l'intervention de Pierre Gilles et de Thomas More, Thomas More d'ailleurs, qui est présent là sous plusieurs formes, sous plusieurs figures dans ce texte, l'intervention vise à dire à Raphaël, eh bien, puisque vous connaissez des institutions très sages, des bonnes républiques bien ordonnées, la meilleure forme de communauté politique, c'est le sous-titre de l'Utopie, eh bien, il faut vous mettre au service des princes pour les conseiller dans leur dans leur art de gouverner. C'est-à-dire que ce que Thomas More fait, s'il reprend le thème platonicien les philosophes doivent devenir rois et les rois doivent devenir philosophes, mais il en donne une version bien tempérée, puisque simplement le philosophe doit devenir conseiller du prince. Hein. Et à ce moment-là, la position de Raphaël, c'est de refuser complètement cette position et de se mettre au service des princes dont il dit qu'ils sont sourds, mais ce qui est valable pour les princes est aussi valable pour l'opinion.
Mais alors, pardonnez-moi Miguel Amansour, mais est-ce que symboliquement ce geste-là ne fonde pas, alors là pour le coup, presque j'allais dire, l'identité de l'intellectuel engagé par exemple, qui revendique le droit et le devoir d'une forme d'irresponsabilité politique. C'est-à-dire, par exemple, l'antithèse de ça, ce serait Raymond Aron qui découvre un jour au bord du Rhin qu'il faut toujours penser en se mettant à la place de celui qui gouverne. On pourrait considérer que le refus d'Hitlodé, de Raphaël Hitlodé, de conseiller les princes, contrairement à Machiavel par exemple, c'est précisément d'instituer un registre de la pensée ou du discours qui, une fois pour toutes, est exonéré des conséquences pratiques que ça peut avoir en termes de gouvernement des hommes.
Oui, mais je crois que l'antithèse de Raphaël Hitlodé, il l'a en face de lui, c'est Thomas More. Je n'ai pas besoin d'aller chercher Raymond Aron, parce que Thomas More lui explique qu'en réalité, il a une vision fausse de la philosophie. C'est-à-dire qu'il a une vision, et c'est justement ce qui est en question dans la lettre à Dorp, puisque la lettre à Dorp, c'est une réhabilitation de la rhétorique des grammairiens et des poètes contre les philosophes logiciens, ou ce que More appelle de façon assez satirique les questionnistes. Donc l'antithèse de Raphaël Hitlodé, c'est Thomas More qui lui dit « Mais attention, il y a une autre figure de la philosophie, et il y a une autre figure de l'engagement, c'est une philosophie qui est instruite de la vie et qui connaît son théâtre, et qui sait donc s'adapter. » Et à partir de ce moment-là, Thomas More développe, pour convaincre Raphaël Hitlodé, mais qui ne veut pas céder bien évidemment, mais ça c'est un stratagème du texte, convaincre d'employer la voie oblique. C'est-à-dire que si la superbe, la sottise et l'obstination sont ce qui empêche les rois, les gouvernants et l'opinion de trouver la voie droite, comme le rémora, c'est-à-dire ce poisson ventouse qui se collait, selon les anciens, aux quilles des navires et les empêchait d'avancer, eh bien, il faut employer une voie oblique pour faire décrocher le rémora, c'est-à-dire la sottise, la superbe et l'obstination. Et c'est donc toute une théorie de la voie oblique que met en œuvre Thomas More dans ce dialogue de conseil pour essayer de convaincre Raphaël de se mettre au service des princes. Et donc, bien évidemment, la deuxième partie, le deuxième livre, est la mise en œuvre de cette voie oblique, la mise en œuvre de cette obliquité, ce que More appelle dans son texte « d'uxtus oblicus », c'est-à-dire la conduite oblique.
Mais alors, Miguel Amasour, si Utopia n'est pas une norme, si Utopia n'est pas normatif, d'ailleurs pas plus que, par exemple, le contrat social de Rousseau, dont on a fait un penseur de l'utopie, ce qui était oublié un peu rapidement, que Rousseau lui-même disait que la démocratie était irréalisable et contre nature parce qu'un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Mais si Utopia, de Thomas More, donc, n'est pas une norme, c'est-à-dire si le premier des récits utopistes, enfin le premier des utopistes, celui qui a inventé le mot, ne produit pas une norme en racontant ce qu'il raconte. Quelle est la vertu pratique aujourd'hui, comme on dit, d'un tel texte? Que signifie-t-il aujourd'hui? Qu'apprend-on en le lisant, Miguel Abinsour?
Justement, je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui est en jeu derrière le livre 2. Et ce qui est en jeu derrière le livre 2...
Pour mémoire, le livre 2, c'est quand il décrit l'endroit.
C'est quand il décrit l'endroit. Voilà. Donc, ce qui me paraît en jeu, c'est, comment dirais-je, de dégager un certain nombre de principes. Et ces principes étant susceptibles de s'appliquer de différentes manières. Le premier principe, c'est que nul n'ait plus jamais besoin du nécessaire, que nul ne soit plus jamais privé du nécessaire. Ça, je crois que c'est le premier principe. Le deuxième principe qui me paraît très important, c'est de savoir s'il faut considérer, enfin, quelle est la nature du lien social. Et si le lien social trouve son apothéose dans la paix, est-ce que la paix, c'est simplement la limitation de la guerre, Et donc, à ce moment-là, c'est une paix instable et une paix très, très fragile. Ou est-ce que derrière la paix, le désir de paix, il y a le surgissement d'un autre principe qui pourrait s'appeler soit la communion, la loi de la communion, est-il dit dans le texte de More ou dans un paratexte, ou la loi de l'amitié. C'est-à-dire, les hommes sont-ils des loups pour l'homme, comme le dit Hobbes, ou les hommes sont-ils dans un rapport de fraternité possible ? Ou, si je reprends une des critiques de Hobbes, Spinoza, c'est-à-dire l'homme est un dieu pour l'homme. Donc c'est ça qui est important, je crois, dans l'utopie. Et tout le reste, justement, il faut le prendre, comme vous l'avez dit vous-même, puisque s'il s'agit de privatif, il faut prendre ça avec beaucoup de précautions.
Mais alors, concrètement, tiens, on se promène dans les textes sur l'utopie, oui. Avec vous, Miguel Abinsour. Vous parlez de l'amitié. L'amitié comme principe au-delà de la paix, donc l'idée d'une communion par-delà la paix, qui rappelle Spinoza, d'ailleurs pas celui que vous avez cité, mais celui du traité politique, expliquant que la paix, c'est pas seulement la cessation des hostilités, mais également l'instauration de la concorde entre les hommes.
Absolument.
Bien, mais quelle différence alors y a-t-il, par exemple, entre un tel texte, qui effectivement parle d'amitié, parle de communion entre les hommes, et le délicat Saint-Just, qui voulait bannir les ingrats, ranger l'amitié sous le coup de la loi, ce qui prouvait que d'une certaine manière, d'ailleurs, le bonheur obligatoire n'existe pas sous peine de devenir l'enfer, en l'occurrence. Alors, quelle différence faire entre quelqu'un comme Saint-Just qui veut ranger l'amitié sous le coup de la loi au nom du bien des hommes et Thomas More et la façon dont il décrit l'amitié, dont il la pose en principe. Quand s'effectue le passage, si vous voulez, puisque votre propos, Miguel Abinsour, est très largement de distinguer l'utopie du rêve totalitaire, d'expliquer que l'assimilation de l'un à l'autre procède d'une haine justement de l'utopie et d'un conservatisme. Quand s'opère ce passage et qu'est-ce qui permet de distinguer radicalement donc le propos de Thomas More sur l'amitié et le discours de Saint-Just, par exemple, qui, lui, faisait de l'amitié quasiment un texte de loi. Où là, on est en dictature.
Attention, parce que si vous dites un texte de loi, je dis non, c'est une institution, c'est tout à fait différent.
Une institution, je salue la nuance, mais alors, quelle différence
parce
faites-vous
que, comme dit Saint-Just, il essaye de trouver justement dans l'institution quelque chose qui échappe aux défauts de la loi. Donc ça, c'est tout à fait important et Gilles Deleuze a beaucoup insisté là-dessus dans un texte très intéressant où justement, il voit bien la différence.
Non mais, attendez, alors, Miguel Abinsour, ne chipotons pas. Tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple...
Vous n'allez pas m'apprendre Saint-Just.
Mais non, mais c'est pas à vous.
Je fais les œuvres
Miguel Abinsour,
de Saint-Just.
Je sais bien, mais c'est pas à vous que je l'apprends, justement. C'est aux auditeurs qui peut-être n'ont pas les textes de Saint-Just en tête. Écoutons ça. Tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis. Si un homme quitte un ami, il est tenu d'en expliquer les motifs devant le peuple. S'il le refuse, il est banni. Les amis ne peuvent écrire leurs engagements, ils ne peuvent plaider entre eux. Les amis sont placés les uns près des autres dans les combats. Ceux qui sont restés unis toute leur vie sont renfermés dans le même tombeau, etc., etc., etc. Si un homme commet un crime, ses amis sont bannis. Les amis creusent la tombe, préparent les obsèques l'un de l'autre, ils sèment les fleurs avec les enfants sur la sépulture. Celui qui dit qu'il ne croit pas à l'amitié ou qui n'a point d'amis est banni. Un homme convaincu d'ingratitude est banni. Là, on est chez Saint-Just. Quelle est la différence entre Thomas More et Saint-Just ?
Eh bien, je pense que chez Thomas More, nous avons une recherche du principe et de cette question que, par exemple, pose quelqu'un qui était tout à fait contre la violence, quelqu'un comme Leroux, qui dit au début de l'humanité, les hommes sont-ils frères ou les hommes sont-ils ennemis ? Donc la question, ce que More et Saint-Just ont en commun, c'est de penser d'avoir une conception politique de l'amitié. Simplement, je pense que chez Saint-Just, nous avons quelque chose en plus, puisqu'il essaye d'en faire une institution. Et d'ailleurs, ce que j'ai essayé de montrer, si l'on met Saint-Just du côté de l'utopie, ce dont on pourrait discuter, c'est que Saint-Just, c'est une figure complexe, mixte, où il y a tout un versant qui est du côté de l'émancipation et tout un versant qui est du côté de la domination. Donc là, je pense effectivement que...
Mais j'allais vous demander si les deux discours ne fonctionnent pas nécessairement de pair, Miguel Abinsour. Est-ce que la personne de Saint-Just n'enseigne pas ça ? De la même façon que l'Icarie de Cabet, ou bien la Cité du Soleil de Campanella, ou bien toutes les utopies. Est-ce que finalement l'utopie ne se renverse pas fatalement en son contraire ?
Non, je crois que ce qui est très important pour... et ça nous fera peut-être progresser un peu, parce qu'au lieu de... que ça se termine par un adversaire de l'utopie, un partisan de l'utopie, je crois que ce qui menace l'utopie en permanence... et c'est son appartenance au registre symbolique qui peut l'expliquer, c'est de se dégrader en mythe. Et je crois que c'est là le problème, c'est-à-dire que à partir du moment où l'utopie se dégrade en mythe, elle perd ce que j'appellerais le sens de la distance ou la distanciation. Ce que l'on a chez Mort en permanence. Hein. Et c'est là aussi l'idée de la réalisation, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je pense qu'il n'y a pas d'action révolutionnaire sans la visée d'une utopie, mais encore faut-il voir si celui qui agit pense que cette utopie doit être réalisée ici et maintenant, ou s'il s'agit simplement de ne pas céder sur la justice.
Alors hein, peut-être faut-il emprunter à ce moment-là la voie qui est celle de Michel Foucault. Je voudrais qu'on entende un discours, une conférence que Michel Foucault avait tenue pour France Culture d'ailleurs dans les années 60. Michel Foucault, dans lequel il parle de ces pays sans lieu, de ces histoires sans chronologie, de ces utopies et pourtant paradoxalement de ces utopies qu'on peut déterminer, ce qu'il appelle des contre-espaces ou des utopies localisées. Écoutez.
Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie, des cités, des planètes, des continents, des univers dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace. Sans doute, ces cités, ces continents, ces planètes sont-ils nés, comme on dit, dans la tête des hommes, ou à vrai dire, dans l'interstice de leurs mots, dans l'épaisseur de leurs récits, ou encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leur cœur. Bref, c'est la douceur des utopies. Pourtant, je crois qu'il y a, et ceci dans toute société, des utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu qu'on peut situer sur une carte, des utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu'on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours. Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu'il soit, découpe dans l'espace qu'il occupe, où il vit réellement, où il travaille, des lieux utopiques, et dans le temps où il s'affaire, des moments uchroniques. Voici ce que je veux dire. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Or, parmi tous ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont, en quelque sorte, absolument différents. Des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés, en quelque sorte, à les effacer, à les compenser, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont, en quelque sorte, des contre-espaces. Ces contre-espaces, ces utopies localisées, eh bien, les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin. Bien sûr, c'est le grenier. Ou mieux encore, la tente d'Indien dressée au milieu du grenier. Ou encore, c'est le jeudi après-midi, le grand lit des parents. Eh bien, c'est sur ce grand lit qu'on découvre l'océan, puisqu'on peut y nager entre les couvertures. Et puis ce grand lit, c'est aussi le ciel, puisqu'on peut bondir sur les ressorts. C'est la forêt, puisqu'on s'y cache. C'est la nuit, puisqu'on y devient fantôme entre les draps. C'est le plaisir, enfin, puisque, à la rentrée des parents, on va être puni.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your
La voix d'Ella Fitzgerald dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, et avant elle, la voix de Michel Foucault et Miguel Abinsour, qui est avec nous aujourd'hui pour évoquer la question de l'utopie dans une semaine que lui consacre Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Dans ce témoignage de Michel Foucault, Miguel Abinsour, on entend cette expression de contre-espace qui rappelle celle de contre-pouvoir, et on retrouve chez Foucault cette intuition que finalement l'opposition ou l'émancipation, en somme, ne s'effectue qu'à l'échelle individuelle. On ne peut pas s'affranchir globalement du pouvoir, de la même façon qu'on ne peut pas s'affranchir globalement de l'espace, mais en revanche, à l'échelle de l'individu, là, c'est possible, et c'est même immédiat, c'est même à portée de la main d'un enfant.
Oui, mais comme dit Benjamin, puisque vous parlez à portée de la main d'un enfant, un enfant veut attraper la lune avec la main. Donc je crois que ce qui est très beau dans le texte de Foucault, c'est le rapport qu'il pose entre enfance et utopie. Parce que ça, je crois que c'est une dimension constitutive de l'utopie, notamment par exemple pour Benjamin, et également certainement entre, puisqu'il évoque des jeux sur le lit des parents, mais et également le rapport entre l'utopie, le jeu et le rire.
Mais en même temps, l'utopie dont il parle, dont parle Michel Foucault, n'est pas une utopie collective. Est-ce qu'on peut vouloir décrocher la Lune quand on n'est pas dans un ordre collectif ? Est-ce qu'un individu peut pour lui-même vouloir décrocher la Lune, ou est-ce qu'un individu, finalement, ne désire des choses qui sont que des choses qui sont à sa mesure ?
Ah ben ça dépend de quelle est sa morale.
Non, mais en l'occurrence, chez Foucault, oui. C'est plutôt ça qu'on oui. retient, non, de son propos.
Oui, non, ça, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'utopie, ça a un rapport avec le collectif, hein, ce que Benjamin appelle les rêves du collectif. Hein, parce que je pense que si on sépare l'utopie du collectif, eh bien, on sépare l'utopie de la question de l'émancipation. Donc là, mais c'est pour ça que... Si, dans l'économie, je ne sais pas si c'est un art d'écrire oublié, mais dans l'économie de ce que j'ai fait sur Mort et Benjamin, c'est pas par hasard que je les ai mis ensemble, parce que ce qui me paraissait très important, c'est que chez l'un comme chez l'autre, nous avions une conscience extrêmement aiguë de l'ambiguïté de l'utopie, et comment... Au lieu de tourner le dos à l'utopie ou à cause de cette ambiguïté, il fallait travailler cette ambiguïté et savoir lui faire produire des effets positifs. Parce que justement, ce qui est très intéressant aussi chez Benjamin, c'est la conscience très, très forte que l'utopie est toujours menacée de retomber dans le mythe, et que là, effectivement, si l'utopie retombe dans le mythe, c'est la catastrophe. Ça n'est plus l'utopie contre la catastrophe, mais c'est la mythologisation de l'utopie.
En somme, alors vous pointez dans ce livre hein, deux positions univoques qui, pour vous, ont en commun d'être intenables à l'égard de l'utopie. La position de la dépréciation systématique de l'utopie, comme la position, dites-vous, de l'exaltation acritique, l'exaltation béate de l'utopie. Alors,
oui,
dans le parallèle que vous faites dans ce livre entre Thomas More et Walter Benjamin, vous pointez une différence, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, Miguel Abinsour, entre d'un côté la gaieté de Thomas oui. More, qui est très perceptible dans le livre, qui est un délice à lire, et l'exercice du soupçon, dites-vous, chez Benjamin, ou comment libérer l'utopie de la magie ou du mythe. Alors, à quoi tient ce parallèle, et comment, justement, opérez-vous ce parallèle entre deux individus dont l'un est dans la gaieté et l'autre plus suspicieux ?
C'est-à-dire, je crois que justement, il y a un côté matinal chez Thomas More, hein, qu'il n'y a pas chez Benjamin, hein, parce que chez Benjamin, quand il écrit le livre des passages, avec ce projet qu'il conçoit vers 1927, la première fois, jusqu'à sa mort en 40, il s'agit de penser l'utopie ou la catastrophe, et très vite, ça devient l'utopie contre la catastrophe. C'est-à-dire que je pense que ce qui est très intéressant chez Benjamin, et ce qui me paraît toujours actuel, c'est qu'il a eu conscience que devant le monde comme il va, ou plutôt comme il ne va pas, nous sommes de plus en plus tenus, exposés à une nouvelle sommation utopique. Mais sommation utopique, justement, à laquelle il faut répondre avec d'infinies précautions, parce que comme il le voit parfaitement, si l'utopie à voir avec l'âge d'or. L'âge d'or peut être Arcadie, mais peut être aussi enfer.
Et que oui, c'est, donc, c'est ce que vous appelez le paradoxe de l'utopie selon Benjamin. D'un côté, absolument. Elle est du côté de l'émancipation, de l'autre, elle maintient ce lien avec le mythe de l'âge d'or, et donc elle l'expose, et c'est vous qui le dites, à la répétition dans l'histoire.
Oui, mais justement, c'est à partir de là, ce qui est tout à fait intéressant, notamment dans le dernier texte de Benjamin sur le concept d'histoire, et qui n'est pas un texte comme ça, académique, hein, c'est un texte de quelqu'un qui lutte pour sa survie et qui, en même temps, c'est un texte testamentaire par certains côtés, qui voit comment l'utopie, dans la mesure où elle est consciente de la mythologisation qui la guette,
voilà. Bravo.
dans la mesure où il est averti de la dialectique de l'émancipation, il assigne à l'utopie le fait de défaire la dialectique de l'émancipation, c'est-à-dire de repérer les points aveugles de l'émancipation moderne et sur ces points aveugles de l'émancipation moderne, de faire intervenir sa pratique de l'excès ou sa pratique de l'ailleurs ou de l'altérité ou de la recherche du tout autre social.
Mais pratique de l'excès, est-ce que ça veut dire, par exemple, souhaiter la victoire de ce discours de l'ailleurs politiquement ou très concrètement? Est-ce qu'il faut souhaiter cette victoire ou est-ce qu'il faut, au contraire, pour préserver justement sa dimension corrosive, la maintenir dans la situation de l'opposition, celle, par exemple, d'Itlodé qui refuse de conseiller le prince?
Je ne pourrais pas dire ça parce que la thèse de Thomas More, c'est qu'il ne faut pas refuser de conseiller le prince, il faut envisager d'autres moyens.
Non, mais la position d'Yves Claudet, je dis.
La voie oblique. Non, mais je pense que chez Benjamin, il y a autre chose qui n'est pas du tout dans la problématique Thomas More, me semble-t-il. C'est que le problème, c'est de, dans une crise telle qu'était la crise que connaissait Benjamin, il faut, dit-il, désorienter les cervelles de nos contemporains. Et donc le problème, par exemple, c'est d'attaquer des représentations dominantes qui sont liées à l'émancipation. Par exemple, le culte du travail. Et justement, ce que va faire Benjamin en se tournant vers Fourier, c'est de voir que là, au nom de ce que Benjamin appelle la seconde technique, le travail a été pensé comme un jeu. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a une autre figure de l'émancipation qui apparaît et qui n'est pas de cette valorisation du travail. On pourrait dire que d'une certaine manière, ce que nous avons déjà chez Thomas More, c'est que le mot d'ordre de l'utopie, c'est travailler moins pour rêver plus. Et donc, je crois que c'est tout à fait important chez Benjamin. Mais il y a aussi d'autres choses, le culte du progrès, etc. Donc là, l'utopie reçoit une nouvelle mission chez Benjamin, une nouvelle fonction.
Oui, effectivement, chez Thomas More, on trouve quand même l'idée, c'est lui qui le dit, tout le monde en utopie est occupé à des arts et à des métiers réellement utiles. Voilà. Où on est là, pour le coup, dans la position inverse. Miguel Amasso, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Il est presque l'heure de nous séparer. Néanmoins, Miguel Amasso, juste encore un point sur cette question de l'utopie. Est-ce que l'idée utopique semble, selon vous, la position, le discours de l'utopie, vous semble mal en point ou bien mal en point par les démentis que l'histoire veut lui opposer, ou bien au contraire revigorée précisément par le fait qu'aujourd'hui elle n'est plus normative ou de moins en moins dans l'esprit des gens?
Je pense qu'il y a une persistance de l'utopie. Alors cette persistance, on peut l'expliquer de diverses manières, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais je crois qu'il y a une persistance d'autant plus grande, c'est que nous sommes nous aussi face à des sommations utopiques, de nouvelles sommations utopiques, et que nous sommes, je crois... amené au fond à constater qu'il y a autour de nous ce que j'appellerais un nouvel esprit utopique. It's a god-awful small affair
to the girl with the mousy hair. David Bowie dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, c'est une autre planète dont il parle, Life on Mars. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and Merci Miguel Abinsour. Je rappelle que vous êtes responsable de la maîtrise de sciences politiques à l'Université de Paris 7, à Jussieu.
Je suis émérite.
Émérite, c'est mieux. Directeur de la collection critique de la politique chez Payot. Vous êtes également l'auteur de L'Utopie de Thomas More à Walter Benjamin, paru chez Sens et Tonka en 2000, et du Procès des maîtres rêveurs, paru chez Sulliver en 2000. Demain, dans les nouveaux chemins de la connaissance, c'est Patrick Tacussel qu'on recevra, le sociologue Patrick Tacussel, professeur à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, et qui viendra nous parler de Charles Fourier. À la technique aujourd'hui, c'était Alexandre Dang, à la réalisation François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett et Léa Van Stel. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Albert Jacquard.